Merci et tout de suite, on déhousse la raquette.
1, 2, 3.
Bonsoir, je suis Claire Diao.
Bonsoir, je m'appelle Jean-Marc Mormec.
Je suis Mathilde Serrel.
Et moi, Martin Kenéen.
Jean-Marc Mormec, depuis que le gamin de Bobigny que vous étiez est entré sur un ring, vous avez obtenu 37 victoires, dont 23 par KO sur 43 combats et 6 titres de champion du monde. Vous avez raccroché les gants en 2014 après 20 ans de carrière et boxez désormais les discriminations en tant que délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer. Dans un livre d'entretien avec le journaliste Éric Coutard, publié aux éditions Amphora, vous transmettez votre expérience de champion des possibles. Claire Diao, en tant que critique de cinéma, vous avez forcément un côté pugiliste, prête à lutter pour défendre ou descendre un film. Mais votre combat, c'est avant tout de faire entendre une nouvelle génération de cinéastes issus des quartiers populaires. Des émeutes de 2005 à la caméra d'or de Divine en 2016, ils sont ce que vous appelez dans un essai publié au Diable Vauvert, la double vague, le nouveau souffle du cinéma français. Ce soir, dans Ping Pong, le renouveau passe le périph.
Ping Pong. La culture sans limite. Oh, yeah. Édito.
De la musique noire et libre. Un morceau précisément intitulé, et en français s'il vous plaît, Le Matin des Noirs. Un morceau engagé, enregistré presque jour pour jour il y a 52 ans. Mais surtout, son auteur, Archie Shepp, ici en duo avec le grand Coltrane, vient de fêter fièrement ses 80 printemps. Et si j'ai choisi ce soir de vous inviter à célébrer son anniversaire, c'est aussi parce que son parcours et son art résonnent avec les combats de nos invités. Archie Shepp est en effet un militant de la cause noire et de la liberté, armé de son saxophone, un jour comparé à un AK-47 Viet Cong. Shepp fut ainsi un militant de la lutte pour les droits civiques des Afro-Américains, comme en témoigne son album Attica Blues. Il fut aussi un militant du grand élan panafricain, lui qui a joué en 1969 au Festival panafricain d'Alger, festival qui a refleuri, soit dit en passant, à Kinshasa en 1974, autour du fameux et renversant combat de boxe entre Mohamed Ali et George Foreman, un militant donc aussi contre la guerre du Vietnam. Et Shepp est un militant encore et toujours ce printemps, son nom ayant été associé à plusieurs pétitions politiques en France. Car Archie Shepp vit à Paris depuis des années dans notre beau pays, lui aussi libre et volontiers déchaîné. Ce musicien donnera ainsi cet été à entendre sa voix indomptée et celle de sa musique porteuse de mémoire dans tout l'Hexagone. Une mémoire de la déportation, de l'esclavage et de la ségrégation, mais une musique aussi farouchement créatrice d'avenir. Ce jazz qui défend l'idée d'un « nous » ouvert, comme vous le pourrez constater à Jazz à Vienne le 3 juillet dans son tribute to Coltrane, le 9 juillet à Jazz à Porquerolles avec Cheikh Tidiane Seck et Alioun Ouad, et le 21 juillet à Jazz à Jouan avec Marion Rampal. Alors Jean-Marc Mormec, une question à vous pour commencer. On a l'idée que les boxeurs, quand ils s'apprêtent à entrer sur le ring, dans leur peignoir scintillant, ils sont accompagnés généralement d'une musique entraînante qui va les galvaniser et les pousser jusqu'à l'affrontement, jusqu'à passer sur le ring. Je crois qu'il y avait des morceaux de rap qui ont pu accompagner certaines de vos entrées en scène, mais quelle musique, fondamentalement, peut-être viscéralement, vous a donné de la force dans la boxe, dans le combat?
Moi, je sais pas vraiment si on peut dire que c'est une musique qui m'a permis, qui m'a entraîné. Moi, c'est le mental, en fin de compte. C'est le mental. Et à chaque fois, je me posais la même question, qu'est-ce que je fais là? Donc, la peur, et je voulais savoir la réponse. Je voulais savoir si, en fin de compte, j'aurais été encore une fois le gagnant. Donc, alors, c'est ce qui me permettait de monter, savoir si j'aurais été le plus fort.
Mais il y avait un de vos premiers entraîneurs, je crois, qui vous a écouté des cassettes, vous passiez du temps avec lui dans sa voiture à écouter des cassettes de chansons françaises, et ça fait partie aussi de votre éducation.
En l'occurrence, une fois, j'étais avec mon entraîneur, c'est vrai qu'on était dans cette voiture, et puis est arrivé Aznavour. Et j'ai trouvé ça, c'est vrai que c'est quand même, c'était sublime, et c'était à ma fille. Et tout ce qu'il disait, c'était tellement touchant, et c'est vrai que j'ai commencé à apprécier Aznavour, et ensuite après, toutes les autres musiques, Piaf, etc. Et j'ai eu la chance de rencontrer Aznavour un jour, de pouvoir le rencontrer, d'échanger avec lui sur Cerdan, forcément, parce que c'était ce grand boxeur avec Piaf, et sur cette musique, et c'était génial. C'était un bon moment.
Claire Diao, dans les quartiers populaires, comme on dit, on a redécouvert le rap fondateur des années 90. On a écrit, on a analysé, on en sait peut-être un peu moins sur ce que vous, vous analysez, c'est-à-dire cette nouvelle génération de cinéastes. La borne, elle est, donc je l'ai dit, de 2005 à 2016. Martin, dans son édito sur Archichef, il parlait de la défense d'un nous ouvert dans la conception du jazz d'Archichef. Est-ce que c'est un peu ça aussi, cette génération de cinéastes? Un nous ouvert, c'est-à-dire pas une étiquette derrière lesquelles ils pourraient tous se ranger, mais un truc à géométrie variable qui permettrait quand même de rendre compte d'un groupe.
Tout à fait. C'est des cinéastes qui sont français à part entière, même s'ils ont des noms à consonance parfois étrangère, même si par leur nom on va deviner leur religion, etc. Je pense que la France, elle est multiple et que eux essayent de représenter sur les écrans cette facette-là, notamment parce que du fait des émeutes et que je préfère appeler des révoltes sociales de 2005, les médias ont beaucoup stigmatisé les jeunes et les garçons en particulier des quartiers populaires, notamment ceux qui portent une couleur particulière sur leur peau. On le ressent aussi à travers les contrôles aux faciès, on le ressent dans les bavures policières, etc. Il y a un mal-être dans les quartiers populaires et il y a toute une génération qui s'est dit, puisque ce n'est pas cette image-là que nous voulons donner de nous-mêmes, prenons les caméras et racontons nos histoires comme nous, nous les ressentons.
Et bien ce soir avec vous, Claire Diao et Jean-Marc Mormec, nous allons écouter comment vous racontez votre histoire qui est aussi la nôtre, différemment.
Ping Pong, c'est sur France Culture.
Faut être un homme pour monter sur le ring et faire face à la vie. Que je perde ou que je gagne, tant que je me bats, je vis. Le chaos, c'est pas la mort, mec. À la Jean-Marc mort, mec. Les poings levés, la tête haute jusqu'à la mort, mec. Y'en a qui parlent, y'en a qui font. Y'en a qui voudraient être alors qu'il y en a qui sont. Y'en a qui sortent grandis d'une défaite. Y'en a qui savent faire naître une victoire dans l'échec. À la Jean-Marc mort, mec. On verra pas, on a la rage et le courage. On est noir, on est fier, on est fort, on est barge, même blessé, on n'est jamais forfait. On préfère redoubler des forces, c'est ce que le forfait. Parce que le fort, c'est forcé. Surmonter ses peurs, si le corps est un royaume, sache que le cœur en est l'empereur. De mon cœur que jaillit ma force, brise-moi les mains. De mon cœur que jaillit ma force, je serre le poing et j'avance.
Vous écoutez Kerry James sur France Culture, le titre Mormec, à l'instant hymne au combat pour construire son destin. Jean-Marc Mormec, c'est un écho direct à ce livre d'entretien publié chez Amphora avec le journaliste Éric Coutard qui évoque dans son introduction la façon, l'énergie que vous avez eue face à celles et ceux qui ont, je cite, « bâti des murs pour vous empêcher de grandir ». Ça résonne avec les paroles de Kerry James. Il y en a qui parlent, il y en a qui font, il y en a qui savent faire naître une victoire dans l'échec à la Jean-Marc Mormec. Même blessé, on n'est jamais forfait. On préfère redoubler d'efforts, c'est ce que le fort fait. Il y a un écho évidemment avec la ligne que vous défendez dans ce livre, et peut-être un écho encore plus fort avec la position qu'a Kerry James en ce moment. C'est, il est monté sur les planches avec son spectacle à vif pour rassembler et remobiliser, on va dire, la jeunesse des quartiers populaires autour de sa responsabilité. C'est aussi quelque chose que vous recherchez.
Oui, et juste pour revenir pour Kerry James, c'est incroyable parce qu'en fin de compte, je venais de quand il fait cette musique, c'était sur un documentaire et je venais de perdre au Madison Square Garden. Ce combat que j'avais rêvé de combattre au Madison Square Garden, j'ai perdu. Et j'ai voulu que ça soit lui qui fasse c'est cette musique pour le documentaire qu'il y avait, et c'était pour voir comment lui me voyait. Et il a pas pris longtemps pour écrire ça, et je trouve ça quand même, voilà, c'est comme ça qu'il me décrivait, et je trouve ça, voilà, c'est moi.
Et comment vous avez l'impression qu'il vous voyait alors?
C'était de par ses écrits, parce que moi j'aime bien ce qu'il fait, dans ses chansons, ce qu'il revendique par rapport à la banlieue, comme il dit, c'est pas parce qu'on sort de la banlieue qu'on est tous voués à l'échec.
On
n'est pas condamné à l'échec, et je pense que ça c'est vrai, parce que moi je sors justement de cette banlieue, et il faut se battre.
De Bobigny, donc.
De Bobigny, ouais, je pense qu'il faut se battre beaucoup plus que les autres pour revendiquer quelque chose, et lui me voyait comme ça. Enfin, le fait de même qu'on tombe, on remonte et il faut se battre, et je trouvais ça.
Voilà. Et ensuite, ça a donné, donc je le disais, cette pièce de théâtre à vif, qui est un débat contradictoire sur le rôle de l'État, sa responsabilité dans la situation dans les quartiers populaires. Et dans votre livre d'entretien, Jean-Marc Mormec, il y a vraiment cette idée de responsabilité individuelle que vous remettez au centre, un peu justement, comme le fait Kerry James dans sa pièce de théâtre. C'est un livre, au-delà du récit de vos victoires et de vos échecs, pour la jeunesse des quartiers populaires.
Bah oui, c'est aussi se dire que même le fait de sortir en fin de compte de cette banlieue où il y a aussi cette ce mélange culturel, mais en même temps il y a c'est une vraie force, que la banlieue c'est une vraie richesse en fin de compte culturelle, et c'est de dire en fin de compte faut se battre, La vie, c'est un combat, et puis la boxe, je dis bien, c'est un combat, mais il faut se battre, et il faut se battre positivement, il faut faire les choses comme on a envie de les faire, quoi. Mais il faut les faire bien, il faut pas avoir de regrets demain. Donc c'est pour ça que moi j'avance, et en avançant, et puis je raconte cette histoire, enfin je raconte mon histoire par des échanges avec ce journaliste, pour dire qu'en fin de compte, qu'on peut vraiment, on peut y arriver, qu'on se donne les moyens, en tout cas, même si on n'y arrive pas, des fois c'est qu'il y aura pas de regrets parce qu'on a essayé.
Est-ce que vous avez l'impression, parfois, Jean-Marc Mormec, de défendre des valeurs qui sont ces valeurs du combat, mais aussi du mérite, puisque vous soutenez qu'il n'y a pas d'autre égalité que celle que le mérite et le courage apportent, qui peuvent être considérées comme des idées de droite? On vous a posé la question une fois, je crois, est-ce que le sport et la boxe en particulier sont de gauche ou de droite? Et vous avez dit, je crois, il y a des tas de boxes différentes, on peut venir au corps à corps, au mano à mano, ou alors se tenir à distance en souplesse.
C'est la boxe des élites qui tape dans les sacs qui ne rendent pas les coups.
Mais oui, non, mais c'est vrai. Il y a différentes façons de boxer, quoi. Il y a le styliste qui va toujours bouger un peu, comme Ali disait. Je pique comme une abeille, et puis. Mais je pense que je veux défendre un combat en gros, en général, pour tout le monde, pour dire que le fait qu'on soit, on sort de cette diversité, que il faut se donner les moyens. On sait qu'il faut faire beaucoup plus que les autres pour pouvoir s'en sortir, mais il faut travailler, il faut pas que ces jeunes fassent ce qu'on attend d'eux, c'est-à-dire rester dans votre cité, comme on dit vulgairement, on fume le bédo et puis on s'occupe de rien. Non, au contraire, faut aller vers l'avant, faut faire des choses, faut frapper aux portes et faut attendre qu'ils s'ouvrent. Et je pense que c'est important.
Mais à cet égard, puisqu'on parle de combat, vous insistez, je crois aussi, sur le fait que dans la boxe en particulier, le combat, il n'est pas simplement un combat individuel, c'est aussi un combat collectif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi la boxe est un sport collectif?
Pour moi, ce sport, avant même d'être un sport individuel, c'est un sport collectif. C'est faire ce sport, c'est déjà entreprendre. C'est-à-dire que on est tout seul, on choisit son staff, on choisit son entraîneur, on choisit son préparateur, on choisit tout un staff autour de soi, et c'est ce staff qui nous fait gagner. C'est-à-dire que c'est déjà un sport, c'est un sport collectif. On travaille tous ensemble. Il y a peut-être 5-6 personnes autour d'une personne. C'est pour qu'on travaille, on converge ensemble. Et ensuite, quand on arrive sur le ring le jour du combat, c'est où ça devient individuel, puisqu'en fin de compte, je dois défendre tout ce qu'on m'a appris, tout ce que j'ai appris pendant tous ces mois. Mais c'est déjà un sport collectif. On gagne ensemble. Tout seul, être boxeur et vous entraîner, vous pouvez pas vous faire tout seul. Donc c'est déjà un sport collectif et ensuite ça devient un sport individuel.
Claire Diao, le cinéma, c'est un sport collectif de combat.
Ah, ça c'est sûr.
Dans le cas des cinéastes que justement vous défendez, ce qui est intéressant aussi, c'est la façon de boxer leur sujet. Notamment, vous mettez en valeur, alors, on l'a dit, les banques logiques, c'est 2005-2016 pour cette nouvelle génération, mais ça ne veut pas dire qu'avant, ce ne sont pas des sujets qui ont été traités par des cinéastes des quartiers populaires, par des parcours différents, notamment Dominique Cabrera, qu'on avait reçu ici, qui a fait des chroniques sur la banlieue. Et vous la citez avec cette idée que le film dit la vérité du rapport qu'on a avec ce que l'on filme. En quoi ce sont à la fois des films de combat, mais aussi des films sincères et sur le plan cinématographique, sur ce point-là, défendables?
Bah, pour moi, c'est des cinéastes qui s'inscrivent justement dans la logique des rappeurs des années 80-90 qu'on a eu en France. C'est-à-dire que ces rappeurs n'ont jamais demandé la permission pour prendre une feuille, un stylo et décrire la société telle qu'ils la ressentaient et toutes les inégalités telles qu'ils les vivaient. Là, c'est des cinéastes qui, comme je l'ai dit au départ, se sentent caricaturés sur les écrans, dans les rôles qu'on donne aux acteurs, etc. C'est d'ailleurs beaucoup d'acteurs qui deviennent réalisateurs dans la génération de cinéastes que j'ai pu suivre, d'anciens boxeurs aussi comme Rachid Jaidani. En tout cas, c'est des gens qui sont portés par une envie de dire des choses. Ils se lèvent pas juste pour faire du cinéma parce qu'il faut faire du cinéma et on veut avoir des paillettes et monter les tapis rouges à Cannes, parce que ça il faut attendre longtemps pour y accéder. Ils font du cinéma parce qu'ils ont des choses à dire et ils se rendent compte que s'ils attendent que les autres le racontent, ça sera jamais de la façon dont eux ont envie de le faire. Et il y a un cinéaste par exemple d'Aubervilliers, Yacine Knia, qui le dit très bien. Il dit, moi la banlieue je la filme avec de la pudeur, et c'est ce que je reproche aux grands films, ou en tout cas aux films commerciaux qui traitent de la banlieue, c'est que c'est souvent des films sensationnalistes qui vont aller chercher justement le jeune qui fume un joint, qui va être en jogging, qui va faire de la moto sans casque, etc., ou qui va agresser des vieilles dans Paris. Il n'y a pas que ça. Et donc en fait, dans les films que cette génération-là fait de la France, et ben c'est la France dans toute sa diversité, dans toutes ses classes populaires, et c'est pas cette vision uniquement de chômeurs, traîne savate, qui vont aller voler l'argent des riches, etc.
Le deal ou Pôle emploi, quoi, pour résumer la caricature.
Exactement.
Mais ce qui est intéressant aussi dans la proposition, on va dire, iconographique autour des quartiers populaires, c'est qu'il y a cet aspect-là caricatural, et puis il y a aussi l'autre proposition qui va être celle portée par des clips où justement on va défendre l'imagerie dont vous venez de parler à outrance. Donc ces cinéastes-là, c'est aussi une sorte de contre-proposition à cet égard, par rapport à ce qu'on peut avoir comme image fabriquée aussi par des rappeurs issus des quartiers populaires.
Mais il y en a pas mal qui ont démarré par les clips, et puis certains qui sont restés au niveau du clip, et d'autres qui ont émergé. Un réalisateur de l'Essonne, par exemple, Atisso Medessou, il a été clip des clips en 2000 avec Je pète les plombs de This is la peste, et ça a été une vraie révélation. Et moi, je me souviens que j'étais au collège, je voyais ça à la télé, c'était le truc de fou, on en parlait tous à la récré. Et après, je monte sur Paris, et Atisso, c'est mon pote, on discute tout le temps ensemble, etc. Et il y a un côté, c'est des gens accessibles, en fait. Ils habitent en France comme moi, ils ont grandi comme moi, on a les mêmes codes, on a les mêmes références, etc. Donc oui, il y a eu des clips qui enferment, et encore aujourd'hui, avec cette idée de l'argent. Je repense au clip, par exemple, Ma Benz de NTM, etc., où forcément, c'est la grosse voiture luisante, les filles en bikini qui ondulent sur le
chapeau, etc. Il y a eu la calage de Caris,
il y a beaucoup de choses. Mais je pense que là, justement, c'est des cinéastes qui sortent de ça. Et certes, il peut y avoir du hip-hop dans leur bande-son, mais on n'est pas non plus dans une caricature de ce que peuvent faire les Américains.
Mais est-ce que dans votre fonction politique, celle que vous exercez aujourd'hui, Jean-Marc Mormec, donc celle de délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer et des quartiers prioritaires des villes, il est important pour vous de faire une place non seulement à ces jeunes gens qui veulent s'en sortir par le sport et qui vous choisiraient comme exemple, puisque vous êtes ce champion, ce multiple 6 fois champion du monde de boxe, mais aussi de faire une place à cette tendresse? La cinéaste Alice Diop, qui est une des personnes interviewées par Claire Diao, a fait ce film qui s'appelle Vers la tendresse, et on découvre en effet dans le livre d'entretien de Claire Diao, dans son enquête, qu'il y a des femmes fortes, qu'il y a des amoureux, qu'il y a des homosexuels dans tout ce cinéma produit par ces jeunes gens. Il y a une place, il faut donner toute votre force à une forme de tendresse aujourd'hui à l'égard de...
Bien sûr, en fin de compte, c'est beaucoup de ces jeunes ont besoin d'être écoutés, et le fait, déjà, quand moi je suis arrivé à la délégation, qu'on me l'a proposé, c'est justement Patrick Carême qui était le premier délégué, qui m'a dit, il faut que tu fasses ça absolument.
Alors, je lui ai dit, passé le relais.
Je lui ai dit, mais c'est de la politique, donc c'est des problèmes, j'en veux pas. et il m'a dit, non, tu vas voir. Et puis, en fin de compte, je suis le 4e délégué, et c'était, avant tout, j'ai pris 2 mois pour écouter ces jeunes. J'ai pris 2 mois pour écouter déjà ces jeunes qui venaient d'outre-mer et qui comprenaient pas. En fin de compte, moi aussi, je viens des outre-mer, parce que je suis arrivé à l'âge de 6 ans, et enfin...
Mais de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe.
Et on ne se rend pas compte, parce que même on vit dans la banlieue, on ne s'intéresse pas aux autres. Parce qu'on vit, en fin de compte, cloîtré chez nous, avec nos potes, comme on dit, et je me rends compte qu'il y a des gens du Pacifique, en fin de compte, qui ont un problème de sécurité sociale, et ça fait des années que ça dure, et en fin de compte, quand ils viennent me voir, ils disent, mais pourquoi nous, quand on est chez nous, on est français, et quand on vient en métropole, on ne nous considère pas comme français? Et c'est vrai que c'est là qu'on s'interroge, et on se pose la question, on se dit, mais pourquoi? Et en fin de compte, il y avait un problème avec l'INSEE, donc il faut, et on a réglé le problème, et au fur et à mesure, on s'intéresse à d'autres problèmes, et puis on se dit, mais ces jeunes, pour certains, qu'ils arrivent des outre-mer parce qu'ils cherchent du boulot, parce qu'ils sont dans les banlieues, et ils ont pas de réseau, ils ont pas de ci, ils ont pas de ça, et ils ont pas les moyens comme d'autres pour pouvoir y accéder. Alors, faisons un raccourci, je vais faire ce relais pour eux et pour voir, en fin de compte, puisque je sors aussi de là, je sais les difficultés. Et essayons de faire ensemble. Voilà, c'est à un moment donné de dire le vivre ensemble. On est obligé de vivre ensemble mais le faire ensemble, c'est un peu des fois plus dur. Donc essayons de le faire et je vais être ce relais.
En 2016, Jean-Marc Mormec, vous êtes nommé donc délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer par Manuel Valls. Et puis depuis, finalement, c'est un poste donc qui continue sous les différents gouvernements. Il y en a eu 2 depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Et vous parlez de solutions de terrain. Ça résonne aussi un petit peu avec le livre de Claire Diao qui dit qu'il y a des décalage récurrent entre les attentes et les propositions au niveau des quartiers populaires. Donc, c'est quoi votre travail de terrain? Parce que vous dites, voilà, moi, je cherche des solutions applicables.
Ben, déjà, après, il faut voir quelles sont les difficultés avant de trouver des solutions. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut déjà pouvoir écouter ces jeunes, de voir ce qu'ils ont besoin, et ensuite essayer de voir pallier à ce problème. Le problème, c'était, comme je l'ai dit, ils cherchent, pour certains, en cherchent un stage pour pouvoir valider leur diplôme, mais ben, ils n'ont pas les contacts, ils n'ont pas comment ils font. Donc, en fin de compte, ce que j'ai fait, le fait de d'avoir fait toute cette carrière, d'avoir connu beaucoup de chefs d'entreprise, et donc c'est d'ouvrir ce carnet d'adresse et d'appeler ces chefs d'entreprise aujourd'hui, et de ça m'a permis de monter une plateforme où il y a quand même peut-être une vingtaine de sociétés qui nous ont fait confiance. Je parle de la FNAC à Mundi, de EDF à Veolia, et puis etc., le France 2, Canal Plus, qui nous ont fait confiance, et pour des stages, pour des contrats d'apprentissage, pour du travail assez jeune. Donc cette plateforme, ils arrivent, et puis qu'ils aient un vrai suivi. Alors on a pris une association qui s'appelle Jeunesse Outre-mer, qui vont suivre, où il y a pas mal de DRH qui vont suivre ces jeunes en fin de compte, pour leur dire peut-être il faut revoir leur CV, il faut leur faire passer des entretiens pour qu'ils soient prêts. C'est un vrai suivi. Et ensuite on se dit, il y a pas que des jeunes aussi à la délégation, je me dis il y a pas que des jeunes qui cherchent du travail, des contrats d'apprentissage, mais on a aussi qui veulent faire de l'entrepreneuriat, qui veulent monter leur société, qui veulent créer quelque chose. Donc c'est de voir aussi quels sont les organismes à qui je peux faire appel, comment pouvoir les aider financièrement de façon à restructurer, à structurer leur société pour qu'ils puissent le monter. Voilà, donner une vraie chance en fin de compte. Essayer de comprendre, parce qu'en fin de compte, on a les mêmes codes, ce que je comprends, essayer de les aider.
Éric Coutard, il parle, donc le journaliste avec qui vous faites cet entretien, Jean-Marc Mormec, de votre regard, de ce regard qu'il voit parfois, celui du garçon de 6 ans, justement, qui vient de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe et qui arrive à Paris, à Bobigny, et que régulièrement, en vous interviewant, et bah, il revoyait ces yeux-là. Vous vous replongez aussi dans le Jean-Marc Mormec de ces années-là, quand vous êtes à cette mission de délégué, par rapport à ce que vous avez pu vivre, vous, comme ultramarin?
Bah, forcément, parce que j'ai... Comme je l'ai dit, j'arrive à 6 ans, métropole, je connais pas, je suis venu pour moi en vacances, voir mon père et ensuite repartir, aller raconter en fin de compte ce que j'ai vu, parce que pour moi, j'allais voir des choses tellement merveilleuses et revenir, en tout cas au pays, raconter. En fin de compte, je suis jamais reparti, je suis parti à l'âge de 17 ans, donc c'était une vraie souffrance quelque part aussi pour moi. Et vivre dans cette banlieue où j'avais plus de repères, j'avais plus rien, fallait se réhabituer, fallait connaître des gens et comment s'intégrer, comment parler aux gens. Et le sport m'a permis en fin de compte de faire tout ça, puisque le sport, c'est vrai que jouer au foot et qu'on vous appelle, on vous dit que vous faites partie d'une équipe et puis aider l'autre, quand l'autre il marque un but, vous saute dans les bras alors que vous le connaissez pas. Enfin, voilà. Pour un enfant de 6 ans, eh ben, mon évolution a été ça. Et aujourd'hui, je comprends ces jeunes, en fait, quand on se pose la question, se dire, mais, qu'est-ce qu'il y a pour nous? Qu'est-ce qu'on peut nous proposer, mis à part dans ce quartier qui, des fois, qui est horrible, l'ascenseur est toujours en panne pour ces gens. Enfin, c'est récurrent, c'est toujours la même chose. À dire qu'en fin de compte, c'est des oubliés. C'est les oubliés en fin de compte du système, et tant qu'ils restent chez eux et ils font pas de bruit, ben tout va bien, et qu'on sort de l'autre côté du périph, et puis en fin de compte après ben il y a des problèmes. C'est de dire qu'en fin de compte tous ces gens, tous ces jeunes en fin de compte que j'ai été moi aussi à un moment donné, eh ben ils ont les envies. Ils ont envie aussi, ils rêvent et ils ont des rêves et il faut pouvoir les réaliser. Alors c'est de les aider et faire en tout cas peut-être la passation pour que peut-être les politiques ou d'autres les entendent et dire que ils existent aussi, les gens comme ça existent. Et moi j'étais un de ces jeunes, et si je suis arrivé là, alors qu'il y en a plein d'autres qui peuvent faire aussi encore mieux que moi.
Claire Diao, on l'entend dans ce que nous dit Jean-Marc Mormec, à la fois de son expérience mais aussi des nécessités de sa fonction aujourd'hui. Il y a quelque chose de peut-être encore plus scandaleux, en tout du moins tout aussi scandaleux que pour les hommes et les femmes qui ont dit d'origine étrangère, pour les ultramarins, qu'ils soient antillais, qu'ils soient réunionnais ou qu'ils soient guyanais, on l'a bien vu récemment, qui sont des oubliés, qui sont dans une situation, alors qu'ils sont citoyens français, différente, inégale par rapport aux métropolitains. Or, vous, dans votre livre d'entretien, donc double vague, c'est à la fois proposer une nouvelle vague dont a besoin le cinéma français d'aujourd'hui, mais c'est aussi interroger cette double culture. Vous êtes fièrement franco-burkinabé. Il y a une place pour ces questions d'une identité double et douloureuse des ultramarins, et en particulier des Antillais, dans votre livre?
Il y en a quelques-uns, il y en a peut-être pas assez, mais là, ça m'a fait penser à, il y a peu de temps, à Talent en course, un dispositif mis en place par le CNC au Jamel Comedy Club, où chaque mois, des jeunes viennent pitcher leur scénario à des producteurs de cinéma et des diffuseurs télé. Du coup, ça permet de créer le fameux réseau qui n'existe pas. Il y a une jeune femme basée à La Réunion, Elsa Dabani, qui fait un travail extraordinaire avec un projet qui s'appelle Talent la Cour, qui a fait venir 9 jeunes de La Réunion directement jusqu'à Paris pour pitcher là, sur scène, devant donc des producteur, exactement, oui, pour parler en bon français, résumé. Et il y en a un qui est monté sur scène et qui m'a vraiment scotché, c'est, il a dit, voilà, moi, nous, les Dom Tom, c'est la banlieue de la banlieue. Nous, je représente le béton. Je représente les gens qui, sur une île, n'ont jamais vu la mer. Et nous, nos cités à nous, c'est NTS, c'est niveau très social. Et notre rêve, il dépasse pas le ciel, en fait. Il dépasse pas le plafond, il dépasse pas le parking. Et voilà, quand il s'est exprimé comme ça, je me suis dit, mais c'est extraordinaire et c'est tellement triste qu'on n'arrive pas à faire des liens. Je comprends pas pourquoi à la télévision, on nous parle des dom-toms que quand il y a une révolte, que quand il y a une grève, que quand il y a du chikungunya. Et c'est effectivement ça. On est français que quand on est en dehors de France. Mais du moment où on vient en métropole et que l'on soit antillais ou que l'on soit avec une origine d'autres pays, il y a toujours cette question, tu viens d'où? Et ce manque d'appartenance, c'est ça qui fait qu'on a une génération aujourd'hui, je trouve, qui est un peu schizophrène parce qu'on ne sait pas d'où on est. Donc il faut revendiquer le côté pas français parce que par défaut, puisqu'on ne nous reconnaît pas comme français. Et en fait, c'est que quand il y a de la réussite que là, la France vous dit « Oui, merci, tu es français, on vous valorise, etc. » Mais il y a un moment donné, je pense que Jean-Marc a tout à fait raison, il y a un vrai manque d'amour et il faut commencer que par ça. C'est, si on donne de l'amour, on en reçoit en retour. Mais si on est rejeté depuis l'enfance, il y a un moment donné où en grandissant, il y a de l'aigreur, il y a de la rancœur et puis ça s'exprime par mille et une façons.
Ben, entièrement d'accord avec ça, parce que c'est vrai que je pense que dans tout ce qu'on fait, on a toujours besoin de reconnaître. Vous avez toujours besoin que, c'est vrai, de temps en temps, eh ben, qu'on reconnaisse en fin de compte le travail que vous faites. Et là, c'est pas le cas. Qu'on a vu ce qui s'est passé, en Guyane. Je crois que ça fait 30 ans, quoi. 30 ans, des problèmes. Enfin, ils sont en retard de je sais pas combien d'années. Et on s'est pas intéressé à leurs problèmes. Donc, il a fallu qu'il y ait cette manifestation pour qu'on puisse dire, bon, ben, on va essayer de voir. Non, je pense qu'à un moment donné, il faut revoir parce que ce sont des Français. Si on les considère comme ça, donc on doit les considérer, on doit faire en sorte que qu'ils puissent aussi, en fin de compte, qu'ils puissent pas avoir toutes ces manifestations, puisque on a qu'on regarde dans l'équipe de France avec sa diversité, on voit bien que de Maryse Trésor, où moi j'étais fan aujourd'hui, à Lyon, tu vois, enfin il y a quand même beaucoup de personnes d'outre-mer qui sont là et là on les reconnaît, en disant c'est très bien. Alors pourquoi les autres on peut pas reconnaître quand dans les îles il y a une vraie richesse et aussi on est français et je pense que c'est important.
Et qu'il y a pas que des artistes et Claire, des sportifs, parce qu'il y a aussi ça, le truc
dans le système de reconnaissance, c'est ça qui pose problème pour vous. Ce sont les quelques exemples symboliques.
Bah oui, parce que je trouve qu'il y a un problème en France à toujours vouloir mettre en avant une personne. Par exemple, on va dire, il y a un comédien au Marcy. Alors, c'est faux. Il y a tellement de comédiens noirs en France qui se battent pour avoir des rôles. On va toujours mettre en avant une personne qui va avoir, on va dire, toute la presse, toutes les invitations, tous les machins. Donc, ça crée en plus de la rancœur parmi les autres qui n'ont pas un petit peu de cette lumière. Et ça, je trouve ça très dommage parce qu'à chaque fois, on crée le fantasme qu'il n'y en a pas. Il y a tellement de comédiens qui m'ont dit, mais moi, on m'a dit, il y a pas de comédien noir qui savent jouer en France. Et là, on se pose la question, mais où va le directeur de casting? Qu'est-ce qu'il regarde? Est-ce qu'il fait vraiment son travail de repérage? Et les gens qui écrivent les scénarios, pourquoi à tel moment ils vont préciser que tel personnage est de telle couleur, alors qu'ils ne précisent pour aucun autre personnage? Donc, ça veut dire qu'on présuppose que tous les personnages sont blancs et que la personne de couleur, il faut le préciser. Donc, il y a un vrai problème d'imaginaire. Et moi, je parle de cinéma. Le cinéma, on est censé pouvoir rêver. Donc, tout n'importe quel acteur, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit son origine sociale ou culturelle, doit pouvoir prétendre à, par exemple, un rôle d'infirmier s'il y a marqué qu'il faut un infirmier. Et je vois pas pourquoi il faut créer des cases, parce qu'après, sur les écrans, c'est toujours la même chose. Il y a ce qu'on appelle après les minorités qui ne devraient pas être minorités.
On aurait dit indirectement, c'est comme si un genre de quota, quoi.
Il semble que vous ayez cette chose en commun, Claire Diao et Jean-Marc Mormec, de faire en sorte que toutes ces personnes, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, on l'a dit, est un nom, que ce soit non seulement des visages, des faciès, voire des noms de famille avec juste la première initiale parce qu'ils ont des problèmes avec la police, parce qu'ils seraient fichés ou pour d'autres raisons, mais bien qu'ils aient un nom. On le lit dans votre double vague, Claire Diao, Alice Diop, qui on l'a cité tout à l'heure, cette cinéaste qui dit qu'elle cherche à donner un visage et un nom à des gens que l'on voit peu. Isaac de Bancolé aussi, cet acteur, bien sûr, qui avait reçu un César en 1987 pour Black Micmac et qu'on voit davantage dans les films de Jim Jarmusch Jarmusch que dans les films français aujourd'hui, qui dit qu'il lui arrive de recevoir la plupart du temps des scénarios où tous les personnages ont un nom, sauf le nègre. Donc, des personnes sans nom, vous, vous attachez à leur donner un nom.
C'était en 89.
Ouais.
J'espère que ça a un petit peu évolué.
Bah, pour Isaac de Bancolet, heureusement.
Allez
mais
voir
pour...
la mort de Danton d'Alice Diop, écoutez Steve Tienchu, vous verrez que ça n'a pas évolué.
Voilà, et voilà. Une façon de se faire un nom, c'est de combattre et de vaincre comme vous l'avez fait, et vous témoignez volontiers, Jean-Marc Mormec, de l'émotion que ça a été pour vous la première fois que votre nom a été publié dans Le Parisien. Après votre première victoire, c'était une coupe en forme d'aigle, je crois. Vous vous souvenez ce que ça vous a fait de voir votre nom inscrit sur le papier?
Pour moi, c'est magique. Vous êtes dans une banlieue, il n'y a personne qui vous connaît, il n'y a que vos potes de banlieue. Et puis un jour, j'arrive, c'est le dimanche, tous les dimanches, j'allais à Pouchet, Porte-Pouchet, j'allais me battre, parce que je rêvais, c'était pour les championnats de Paris ou les petites compétitions. Et puis un jour, je regarde Le Parisien, je vois mon nom. Je me dis, mais Le Parisien, il n'est pas fait que pour moi. Il y a beaucoup de gens qui vont le lire. Et ben, là, j'y suis. En fin de compte, c'est le début de quelque chose. Et le début de quelque chose, en fin de compte, qu'on voyait ça, et ben, pour vous, même si rien, c'est juste, on me dit, en gros, je combats aujourd'hui. Mais c'est, pour moi, c'était une forme de reconnaissance. Donc, après, il faut persévérer parce que, c'est-à-dire que je suis dans une compétition et je suis susceptible de la gagner. Donc, on s'intéresse à moi. Avant, il y avait rien. Et après, il y a eu des pages et aujourd'hui, j'en suis là. Donc, c'est pour ça que je dis aussi, il faut que ces jeunes, ils se battent, quoi. Il faut jamais baisser les bras. Il faut pouvoir avancer parce que il y a que comme ça qu'on réussit.
Et vous avez même pu dire, Jean-Marc Mormec, que c'était douloureux, la lumière. En quoi c'était douloureux, ce moment-là?
Vous êtes toujours dans l'imaginaire que le fait que vous êtes dans cette banlieue, de toute façon tout le monde s'en fout, on s'intéresse pas à vous, et on s'intéressera jamais à vous parce qu'en fin de compte c'est un endroit, c'est juste l'endroit oublié, c'est perdu, tout se casse la gueule pour parler vulgairement dans les bâtiments, etc. Et voilà, qui s'intéresse à ça. Et au fur et à mesure quand vous arrivez à la lumière. Après, vous aussi des interrogations sur vous-même en disant mais maintenant voilà j'ai une caméra ou j'ai un micro devant moi, est-ce que je vais pouvoir bien m'exprimer, est-ce que je vais pas, ils vont pas me voir, eh ben non, vous faites comme vous savez le faire et comme vous pouvez le faire surtout, et puis je pense que les gens ils comprennent et au fur et à mesure on apprend et on avance et puis on apprend, mais c'est vrai que c'est ça fait peur, ça fait que vous pensez que vous êtes pas peut-être pas à la hauteur parce que peut-être par rapport à avant, vous n'avez jamais considéré, regardé, et c'est ce qui fait en fin de compte que vous avez un peu peur de tout.
1, 2, 3.
À suivre dans Ping Pong, le deuxième round avec Jean-Marc Mormec et Claire Diao, et on est toujours debout.
Ping Pong. La culture sans limite.
Après la lutte sur le ring, derrière la caméra et dans la rue, art noble, au demeurant un peu de douceur, tiens on en parlait, et même de tendresse, pourquoi pas, avec une icône du romantisme dans la musique brésilienne, Gal Costa, chanteuse des années 60-70, dont l'album India est réédité par Monsieur Bongo, homme aux pépites, excellent chercheur d'or musical, qui fait remonter ici le chant d'espoir, tiens, et de combat du mouvement tropicaliste à travers ce disque et la voix de Gal Costa.
Me sinto muito contente. Me sinto completamente contente. Ouso dizer completamente contente. Me arrisco a falar. Me sinto feliz. Me sinto muito feliz.
Gal Costa à l'instant sur une pochette affriolante, s'il en est. Je vous conseille de la découvrir. On est sous le nombril, assez largement. Ça a fait les joies du bureau de ping-pong. Ça nous a mis en été. Ça tombe bien, ça sera publié le 7 juillet, donc réédité chez Monsieur Bongo.
Ping-pong. La culture sans limite.
Tu veux te marier avec moi ou avec eux ?
Avec toi.
Alors ?
Tu veux pas essayer de le faire évoluer ?
On est bien
pas
là.
Essayer de faire évoluer ta famille ?
Non, j'ai pas envie de faire évoluer 40 mecs, c'est pas la peine. 40 rebeux, c'est impossible quoi. Mais par contre, j'ai envie qu'on évolue nous.
Ouais, caché.
Pour l'instant, cacher, halal, comme tu veux. C'est compliqué.
C'est au courant pour la frangine ?
De quoi ? Il
paraît que Sabrina va se marier.
Va se marier ?
Sabrina va se marier. Elle
va se marier avec un renom.
Elle a fait un choix de ouf, quoi. T'as un Renoir, quand c'est... même. Enfin, tu vois ce que je veux dire.
Il s'appelle Dorcy. Ouais, c'est un comédien.
Je viens avec ça... toi, on est mariés ensemble. Qu'est-ce qui se passe, Slimane ? Tu le rencontreras le jour de mon mariage, d'accord ?
Sabrina, il n'y aura pas de mariage.
T'as pas vu le daron ? T'as pas vu les refrains ? Je vais voir un imam, il t'explique comment ça se passe.
Ouais, j'irai voir un imam.
T'as pas circoncé mon frère, tu te marres quand ? Oh là là, t'es même pas circoncé le bas.
Non, j'ai pas Dorcy, j'ai D-O-R, Dorcel.
Tu te fous de ma gueule, là.
Mais c'est toi, tu Dorcy, y a pas de Dorcy, mon frère, regarde.
Alors, dans un extrait de la bande-annonce du film de Rachid Jaidani, bien sûr, Rengaine, Rachid Jaidani qui est un des intervenants, un des témoins, des grands témoins de votre enquête, Claire Diao, donc cette double vague, le nouveau souffle du cinéma français que vous publiez au Diable Vauvert. Aux côtés de Rachid Jaidani, on retrouve Jean-Pascal Zadi, Franck Gastambide, Jean Carénard, Alice Diop, Maïmouna Doucouré. Il se trouve que on entend dans cet extrait le projet de faire évoluer la famille. Est-ce que, à votre façon, vous avez l'ambition politique, esthétique aussi, de faire évoluer la famille du cinéma français et qu'on ne soit plus caché comme les amours de ces amoureux dans Rengaine.
Bah bien sûr, je trouve que en fait le point de départ de tout mon intérêt pour ces cinéastes, c'est le fait d'être spécialisé dans les cinémas d'Afrique, de beaucoup voyager sur le continent africain, de rencontrer beaucoup de cinéastes qui ne sont pas soutenus par leur gouvernement et donc qui n'ont pas de moyens pour faire leurs films, et de regarder dans le rétroviseur et de me dire mais alors comment ça se fait qu'en France je connaisse autant de cinéastes qui galèrent, qui font des films en système D, qui touchent le RSA, qui n'arrivent pas à sortir leurs films en salle, etc. Et c'est à partir de là que je me suis dit mais il y a un problème puisque la France est adulée mondialement pour avoir un centre national du cinéma qui est censé financer le cinéma et qu'il y a une industrie, ça tourne, il y a des salles de cinéma, les gens vont voir des films, etc. Donc ça a vraiment été ça le point de départ, c'est de se dire comment ça se fait qu'on a des personnes qui construisent à la marge, qui font leur cinéma avec des bouts de ficelle et alors qu'ils pourraient, on va dire, entrer dans la grande famille du cinéma. Et quelqu'un comme Franck Gastambide qui est entré dans cette grande maison avec les Kaira, Pattaya, etc. Oui, il a commencé par Canal+,
en jogging
avec
en bas de la tour,
les Kaira Shopping, en plus en me disant mais c'est incroyable que Canal+ m'ait pris parce que MTV n'a pas voulu de nous, et puis même au sein de Canal+, les gens ne comprenaient pas c'était qui ces jeunes en jogging qui crachaient, qui insultaient, etc. Ensuite, il fait les Kaira, 1 million d'entrées, Pattaya, 2 millions d'entrées. Voilà, il est entré, et lui, il me le dit, mais ce qui est nouveau dans le cinéma français, c'est qu'il y a des familles comme nous. Et qu'en fait, une fois dedans, on se rend compte que c'est aussi diversifié. Le plus dur, c'est de rentrer. Et on revient encore à tout ce qu'on a dit depuis le début de l'émission, tout est question de réseau. Quand vous commencez dans un quartier, votre père est ouvrier, votre mère fait des ménages, vous venez d'une famille nombreuse, vous allez peut-être en lycée technique, qui est-ce qui vous donne la possibilité de rêver de faire du cinéma ? Qui va vous tendre une caméra ? Qui va vous dire vas-y, fais ton film ? Qui va vous dire vas-y, tiens, il y a des festivals ici, tu peux aller, tu vas aller voir des films, tu vas rencontrer des gens, tu vas pitcher ton projet à un producteur. C'est très dur d'imaginer ça.
Il y a quand même des associations, des subventions,
Visages,
de l'action culturelle.
Visages, Cité Art de Jérôme Maldé, il y a l'Homme Jal, l'Office municipal de la jeunesse à Aubervilliers qui a fait un travail magnifique. Il y a énormément d'associations qui font du travail de terrain. Et il y a un peu tous ces profils dans les personnes que j'ai pu suivre, c'est que va y en avoir qui vont arrêter le collège en cinquième, il y en a qui vont avoir des agrégations, il y en a qui vont avoir fait des écoles de cinéma, il y en a qui sont allés à la fac, il y en a qui ont fait des BTS, il y en a qui sont passés par tout et n'importe quoi à travailler sur les tournages, etc. pour se faire la main. Donc il n'y a pas une école de cinéma et une voie tracée, tout le monde peut le faire. Maintenant le plus dur c'est la persévérance parce que c'est une industrie, c'est certes un art mais c'est une industrie, ça coûte très cher et donc quand les parents ne peuvent pas vous soutenir pour payer une école de cinéma, etc. c'est comment on fait ? Et c'est pour ça qu'un qu'un Rachid Jaidani va parler de cinéma RSA, qu'un Pascal Tessot va revendiquer un cinéma guérilla, c'est qu'à un moment donné, il faut y aller, il faut aller porter toute une équipe, justement la vision collective, et il faut aller au bout du projet, et ensuite, il faut essayer de le diffuser. Donc certains d'entre eux ont réussi à aller jusqu'à Cannes, que ce soit Jean Karena, Rachid Jaidani, Karine May, Hakim Zouani, ou encore Ouda Benyamina, carrément la caméra d'or. Donc il y en a qui ont réussi à avoir cette ouverture-là, mais il y en a tellement derrière. Quand vous parliez de faire avancer une famille, moi c'est ce que je veux mettre en avant dans mon livre, c'est qu'il n'y en a pas que un. Ils sont aux quatre coins de la France. Et là, je vous parle d'une cinquantaine de cinéastes que j'ai suivis de 2012 à 2016. Mais il y en a tellement d'autres. Il y en a tellement d'autres. Et pourquoi on ne va pas les chercher? Pourquoi on n'est pas curieux? En fait, c'est ça. C'est toujours essayer de sortir de cet entre-soi et se dire qu'il y a des possibilités à côté. Il y a des gens curieux. Et il faut juste leur donner un petit peu, juste un coup de pouce, cette fameuse reconnaissance. Leur dire vas-y et on verra bien ce que ça donne par la suite. Mais je comprends pas pourquoi certains auraient la chance de se planter et d'autres n'auraient même pas la chance de démarrer.
C'est peut-être le moment justement d'expliciter le titre de cet essai au Diable Vauvert qui est Double Vague, le nouveau souffle du cinéma français, parce que dans Double Vague, il y a évidemment le référent à la Nouvelle Vague qu'a évoqué Martin tout à l'heure, mais c'est un référent douloureux d'une certaine manière, parce que c'est aussi un cinéma de l'entre-soi contre lequel, pas vous vous insurgez, mais sur lequel vous commencez à poser limites et problèmes, Claire Diao.
Ben oui, parce que la Nouvelle Vague a certes eu un impact mondial, et ça a été la reconnaissance de la France, mais c'est un mouvement qui date des années 60, on est en 2017, on est au 21e siècle. Donc est-ce qu'on passe notre vie à regarder en arrière, au 20e siècle, en disant « Ah, quelle gloire, on était fort à cette époque », ou est-ce qu'on se pose la question de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, là, dans la France du 21e siècle, qui est novateur, qui essaye de tenter des nouvelles choses, qui est en train d'aspirer dans son cinéma les nouvelles technologies qu'utilisent les jeunes, que ce soit Instagram, Vice, Snapchat, etc. C'est toute cette génération-là qui grandit avec des images. Nous, on est une génération qui sommes nés avec la télévision, on a bouffé des VHS, maintenant on va dans les salles de cinéma avec des cartes illimitées. Donc le film, il le mange. Là, la fracture, elle est qu'il existe un cinéma où il faut écrire des scénarios, il faut avoir un chemin tout tracé, trouver une chaîne de télévision, avoir un producteur, lever des fonds auprès du CNC, en région, etc. Mais le gars qui a quelque chose à dire, il a pas envie de passer 2 ou 4 ans à aller lever des fonds. Donc il sort avec sa caméra, il ramène son crew, il ramène les gens de son entourage et ils se forment eux-mêmes. Et c'est pour ça que je fais le parallèle avec le hip-hop. C'est qu'à un moment donné, quand les gars ont fait leur morceau de hip-hop, ils ont construit des labels, ils ont eu des producteurs. Et à un moment donné, ils ont eu des disques d'or et là, l'industrie s'est intéressée à eux. Ah, il y a un potentiel, il y a un marché, on va miser sur eux. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on a des rappeurs à tour de bras et certains qui gagnent beaucoup d'argent. Je pense qu'il y a la même chose qui est en train de se faire aujourd'hui au niveau du 7e art.
C'est aussi une façon... Jean-Marc Mormec. C'est aussi une façon de casser les codes, quoi. Parce que c'est vrai qu'on est toujours dans... Voilà, il y a des codes et il faut passer par ça, par ça, par ça, comme dans le sport. C'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre avec Eric Kuta. C'est pour dire qu'à un moment donné, on n'est pas obligé de rester dans un système, quoi, de laisser se prendre en main. Comme vous voyez, il y a beaucoup de boxeurs, en fin de compte, qui sont là. Et après, ils sont gérés, dirigés. Et à la fin, ils ont plus rien. Et on leur dit, t'as fait toute une carrière. Et qu'est-ce que t'as eu? Rien du tout. En fin de compte, ils cherchent du boulot. C'est de dire qu'en fin de compte, à un moment, il faut se prendre en main. Il faut prendre des bonnes décisions. Il faut se prendre en main. Et qu'un promoteur doit pas toujours être un promoteur. Mais aussi, le boxeur, il peut se prendre en main. Et il peut se battre. Et il peut organiser ses propres combats. Comme moi, j'ai fait. J'étais avec un promoteur. J'ai quitté parce que ça me plaisait pas.
En 2009, voilà, vous devenez votre propre promoteur.
Ça me plaisait pas. Je vais voir Don King. Je reviens en métropole, voilà, c'est pour me construire, en fin de compte, c'est que j'ai appris mon métier, je sais comment on fait, et puis après j'ai commencé à démarcher au niveau des télévisions, on m'a fait confiance, et voilà, c'est une façon de casser les codes. Aujourd'hui, je suis délégué interministériel, parce que tout ça, je veux dire, c'est, voilà, on m'a fait confiance, et puis on avance comme ça, c'est pour dire à ces jeunes, il ne faut pas toujours rester dans le même code, il faut à un moment donné aussi qu'ils se fassent confiance, et qu'ils croient en eux aussi, en se disant toujours, mais il faut toujours passer par un tel, non, on a des idées, il faut les exposer, et il faut se battre pour ces idées.
Jean-Marc Mormec, on parle de ce livre. Donc ce livre, c'est votre livre d'entretien avec Eric Coutard, publié aux éditions Amphora dans la collection des grands témoins du sport. C'est le premier livre qui vous est consacré. Après, on a pu entendre sur France Culture vos entretiens à voix nue.
Et avec... le deuxième, j'en ai fait un en 2009, qui était à Point Nommé. C'était plus une biographie. Et puis là, c'est celui-ci où avec Eric et Amphora, ils nous ont fait confiance justement pour cet entretien que je trouve très bien.
Mais alors donc, on vous trouve en librairie, on vous trouve dans les kiosques aussi. Vous avez donné un entretien, notamment une revue de psychanalyse récemment, La Cause du Désir. Vous avez donné donc des entretiens à voix nue sur France Culture. Mais puisqu'on parle de cinéma avec Claire Diao, je crois que les écrans, la télévision, puisque vous êtes né au XXe siècle, jouent un rôle très important dans votre relation avec votre père et la façon que vous avez eu de découvrir la boxe au milieu de la nuit en regardant les combats. Mais est-ce qu'il y a des films de boxe qui font partie de votre imaginaire. Moi, il y a Raging Bull de Scorsese, par exemple, qui est important pour des tas de cinéphiles. Vous, il y a des films de boxe dans...
Encore ça, après ça.
Il y a Million Dollar Baby aussi.
Que j'ai trouvé très bien. Mais on va dire la base Rocky, c'est moi, c'est vrai.
Quand regarde Eye of the Tiger.
Voilà, dire avec la musique entraînante et puis l'histoire, c'est l'histoire de ce type enfin qui a grandi dans une banlieue, et s'il sait pas trop quoi faire et puis un jour il a une chance et il la saisit, il se fait remarquer parce qu'en fin de compte, il a que sa combativité pour lui, son envie c'est sortir justement de ce trou à rat qu'il est et puis moi je trouve ça extraordinaire. Donc voilà, moi j'étais à un moment donné le Rocky, j'étais aussi Rocky et puis j'en suis là. Maintenant, il faut continuer.
Mais si vous faisiez un film, ça serait un film sur la boxe ou ça serait un film sur complètement autre chose? Par exemple, je ne sais pas, sur votre grand-mère qui a tellement compté pour vous quand vous étiez enfant?
Je pense qu'après, après tout dépend, mais si j'avais un... Je pense qu'il faut raconter une histoire, et une histoire, comme on peut la raconter, c'est peut-être celle qu'on a vécue ou celle qu'on a... Enfin, ce qui nous a permis de justement pouvoir la faire, ce qui a existé. Donc, mon histoire, c'est ça, quoi. C'est ce jeune, en fin de compte, qui sort des Outre-mer, qui vient et puis un peu qu'il y a un traumatisme parce que je repars comme je l'ai dit à l'âge de 17 ans, c'est de découvrir cette banlieue et de me dire mais qu'est-ce que je fais là dans une famille où en fin de compte je connais ni père ni belle-mère etc et je me retrouve en fin de compte tout seul dans la chambre et je parle à personne et puis les parents ils sont pas à l'époque ils partent très tôt, ils vont au boulot, je me retrouve chez une nourrice et après j'ai tout de suite des responsabilités pour une petite sœur que je connais même pas et enfin c'est tout ça de raconter en fin de compte la dureté mais comment on se bat pour y arriver et à quoi on rêve parce qu'en fin de compte moi j'ai vécu que des rêves dans ma tête en me disant un jour je serai ça, je ferai ça et comment je me suis construit pour y arriver et je pense que c'est important, c'est pour ça que je fais ce livre
et bientôt ce film alors
on me pose des questions et je témoigne parce que je pense que c'est important de dire à plein de jeunes des fois qui se disent ouais mais bon en fin de compte il faut laisser les rêves derrière et non, même quand on est grand on peut rêver et c'est les rêves qui apportent les choses, c'est ça qui nous construit, c'est ça qui nous pousse en fin de compte à réussir, pour moi en tout cas.
Claire Diao, peut-être votre regard de critique de cinéma sur ce que vous mettriez au panthéon des films de boxe?
Oh, panthéon, il y a Ali quand même. Moi, j'aime bien l'histoire de Mohamed Ali. Et il y a Creed, dernièrement, où c'est quand même Rocky qui va former un jeune noir pour devenir boxeur. Donc, je trouve qu'il y a une sorte de filiation aussi dans cette histoire du cinéma. C'est vrai que la boxe, c'est un sport particulier de, je crois, dans la persévérance. Il y a une sorte de mental, en fait. Et je le retrouve souvent auprès des cinéastes que je côtoie, ce rapport un peu de sportif. Il y a certains qui ont été qui aspiraient à être des grands sportifs, qui ont eu une blessure et qui, du coup, qu'est-ce que je fais? Je me recycle, on va dire, dans le cinéma.
Et je pense Rachid Jaidani, en
somme. Voilà, mais lui, c'était pas.
Oui, c'était pas en recyclage.
C'était pas
oui.
son cas. Mais je pense qu'il y a un vrai mental, en fait, parce qu'il y a quelque chose de collectif, il y a quelque chose d'aller jusqu'au bout, et il y a quelque chose de réussir ou d'échec, mais en tout cas de faire la chose, ce geste en fait. Et je pense que justement Rachid, il est souvent à parler à dire qu'il fait un cinéma, c'est complètement utopique. Il est dans l'acte, il est dans le geste. Et ça, là-dedans, je retrouve vraiment une parole de boxeur.
Il tourne comme un papillon, il pique comme une abeille.
Peut-être.
Oulaya et moi, on a deux chemins différents, mais on a là où on se ressemble, c'est qu'on a dû pendant un très long moment, 9 mois. Convaincre Ouda justement du fait qu'elle ne pouvait prendre personne d'autre que nous. D'une part, la difficulté d'Oulaya, c'est que Ouda la connaissait trop. Donc du coup, elle la connaissait dans une nature qui était trop opposée au personnage. Et moi, la difficulté, c'est qu'elle ne me connaissait pas. Et qu'elle a dû apprendre à me connaître, apprendre à voir qui est-ce qu'elle avait en face, si j'avais les épaules ou pas pour interpréter le rôle. Et est-ce qu'elle a des dépêchés? Non, par contre, j'ai dû énormément prendre sur moi. Par rapport justement, Oulaya parlait du jugement du personnage, j'ai été tentée à plusieurs reprises de prendre une position de juge vis-à-vis de Maïmouna. J'avais un côté assez moralisateur qui aurait très bien pu totalement gâcher ma prestation, parce que j'étais dans une distance pas méprisante, mais c'est vrai que ces choix discutables m'ont causé quelques insomnies quand même.
Pour moi, j'ai eu Harvey Keitel, De Niro, Depardieu. Elles ont vraiment la force de ces grands comédiens. À la fois, elles ont le sens de la dramaturgie, du point de vue, et en même temps, une humanité et une générosité extraordinaires.
Ouda Beniamina à l'instant, caméra d'or à Cannes, donc pour le film Divine, et puis Deborah Lukumuna juste avant, qui parlait de son rôle de Maimouna dans le film Divine. Elle a été César du meilleur second rôle d'ailleurs depuis. Il y a aussi César du meilleur premier film pour Divine, meilleur espoir féminin aussi pour Oulaya Amamra. Elle raconte ce qui est amusant, Deborah Lukumuna, quand elle a dû se battre, elle avait encore une histoire de combat pour obtenir le rôle. Et ça, c'est quelque chose qui vous a intéressé peut-être dans la fabrication du film Divine, c'est aussi quelque chose de nouveau, Claire Diao.
Non, je pense qu'avec le livre, je retrace que c'est 10 ans de travail, donc pour moi, c'est pas une surprise. Je pense que c'est une surprise pour les gens qui vont rentrer dans la double vague par Divine, en disant « Ah, qui c'est ces gens ? Ils sont tout nouveaux, etc. » Mais ça, c'est la méthode qu'avait déjà Ouda Beniamina avec Le Commencement, avec Ghetto Child, avec tous les films qu'elle a pu faire au sein de Mille Visages.
C'est l'association qu'elle crée en 2005 suite à la révolte dans les quartiers populaires.
Exactement, à Viry-Châtillon dans le 91. Et c'est donc une réalisatrice qui a toujours essayé de porter... Déjà, à la base, elle est actrice. Quand elle démarre son association, l'idée, c'est de justement donner la possibilité à des jeunes de se dire c'est possible de faire du cinéma. Et on les forme et on fait des ateliers, on les forme au métier technique et on les forme en tant qu'acteur. Et il y en a un autre qui est en train d'émerger de Mille Visages, c'est Djigui Diarra, qui est à la fois comédien et qui est à l'affiche de K.O. Récemment avec Pio Marmaille, etc.
Et Laurent Lafitte, ouais.
Voilà. Et c'est un jeune qui est en train aussi d'évoluer en tant que cinéaste. Donc, non, il n'y a pas une approche. Je pense que c'est tous ces cinéastes-là, c'est pas propre à Ouda Beniamina, mais c'est toute une génération qui a envie de voir de nouveaux visages et de nouveaux talents sur les écrans. Je pense que la vraie différence, c'est que...
Dans la méthode, peut-être.
Oui, dans la méthode et l'approche. Moi, on m'avait parlé de comment elle avait pu faire des castings, etc. Et c'était très, très amusant ce qu'elle mettait en place. Mais moi, ce qui m'avait frappé dans tous les portraits que j'ai pu faire et les interviews que j'ai pu faire avec les réalisateurs, c'est le fait que chacun a été inspiré par les États-Unis et pas par la France. Ou alors, en France, c'était l'avant Nouvelle Vague et c'était les Jean Gabin, les Lino Ventura, etc. Donc, c'est comme s'il y avait eu une passation qui s'était pas faite. Au moment où tout le monde se cristallise autour du cinéma français, eux, ils déplacent le regard et à travers la télévision, ils regardent les Américains parce qu'ils voient des personnes de couleur, parce qu'ils voient des personnes qui leur ressemblent ou qui renvoient des codes culturels auxquels dans lesquels ils se reconnaissent. Une Nadia Harek, cinéaste qui vient de Haute-Savoie, qui habite maintenant à Nîmes, elle a fait plein de documentaires sur le hip-hop, etc. Elle a arrêté ses études de droit pour aller étudier Scorsese parce qu'elle a vu Les Affranchis, ça a été la claque et elle s'est dit, pourtant je suis une femme, c'est un cinéma qu'avec des hommes, mais je me reconnais complètement là-dedans. Et c'est une claque cinématographique. Et il y en a plein qui disent ça. Donc, je me dis, c'est là où on doit se poser des questions. Comment ça se fait qu'en France, on ne puisse pas avoir des modèles? Comment ça se fait qu'en France, certains Français ne peuvent pas rêver et se dire ça, c'est possible? Et donc, un Jean-Marc Mormec, il ouvre la voie. Un jeune qui le voit devenir boxeur champion, il se dit, moi aussi, je peux l'être. Et donc, je pense qu'il y a de ça dans la revendication des réalisateurs de mettre en avant d'autres acteurs, d'autres figures et des gens qui n'ont pas forcément fait des écoles de comédiens.
Je pense que ça s'est passé aussi bien dans le cinéma que dans le sport. Moi, j'ai rêvé de Marvin Hagler, qui était cet Américain en poids moyen. Après, Mike Tyson est arrivé derrière, qui était le sport. Mais toujours qu'on Canal Plus est arrivé dans les années 80 pour montrer ses grands combats et c'est vrai que c'est ce qui m'a donné envie de partir aller aux États-Unis en fin de compte de combattre et parce que j'ai
il n'y avait pas de modèle français.
Voilà, il n'y avait pas de modèle. Enfin, pour moi, il n'y en avait pas. Et puis, où c'était pas peut-être bien expliqué, où je pouvais pas attendre. Enfin, je voyais toujours plus loin. Donc, et j'y suis parti. Voilà. Ce rêve m'a entraîné. Je suis parti aux États-Unis. J'ai fait ma Las Vegas, Madison Square Garden. Enfin, j'ai réalisé des choses que j'aurais peut-être jamais pu faire. Mais je pense que ça, c'est l'inspiration, c'est important. Et c'est ce qui crée le rêve et ce qui fait avancer.
Un dernier mot avec vous, Claire Diao, pour cette nouvelle génération de cinéastes qu'on a évoquée, donc issue des quartiers populaires 2005-2016, pour vos bandes chronologiques qui correspondent, on l'a pas encore dit, à cette série d'interviews que vous aviez menées à l'époque pour le Bondi Blog. En quoi il se passe quelque chose aussi d'intéressant par rapport à cette génération? Vous l'avez dit sur l'héritage. C'est la question que vous posez dès l'introduction. C'est que jusqu'ici, on ne s'était pas dit qu'est-ce qu'on va livrer, qu'est-ce qu'on va transmettre. Et que c'est ça aussi qui se pose à cette nouvelle génération.
Bah oui, parce que comme on parle du jeune de banlieue, on est toujours dans cette figure du jeune. Et un réalisateur comme Jalil Nassiri, qui vient de l'Île-Saint-Denis, dit, il y en a marre, j'ai 40 ans, j'ai 4 enfants, toujours le jeune de banlieue, c'est pas vrai. Donc quand je parle de cette génération, c'est aussi beaucoup de cinéastes qui ont plutôt entre 35 et 40 ans et pas 18-25 ans qui sont les tranches d'âge de tous les dispositifs qui permettent de donner de l'argent à justement des jeunes venant de quartiers populaires et souhaitant accéder au cinéma. Donc déjà il y a un fossé dans les dispositifs. Ensuite c'est des cinéastes qui sont pères de famille et donc ils ne se posent pas la question est-ce que je veux faire du cinéma, mais est-ce que je peux continuer de faire du cinéma, est-ce que je peux continuer à avoir des rêves alors que je dois nourrir mes enfants et payer les factures et gérer une maison, etc. Enfin c'est le fait d'être parent, ça leur permet de se poser la question de qu'est-ce que je lègue à mes enfants. Et qu'est-ce que je lègue quand moi-même je ne sais pas où je suis et où j'en suis par rapport à la France. Il y a un film magnifique de Rachid Jaidani qui s'appelle La Ligne Brune qui est sur les 9 mois de grossesse de sa femme, un documentaire, et il se pose la question, on est en plein débat de l'identité nationale et il pose la question, on va l'appeler Françoise, on va l'appeler comment notre fille? Et puis il y a sa femme Sabrina Hamida qui lui dit mais ça sert à rien d'appeler Françoise, pixel caramel comme toi, de toute façon elle va pas avoir le même rapport dans la société. Donc oui, il y a une vraie question par rapport au non-dit des parents. Et Alice Diop le dit très bien, elle dit nous sommes dans une génération qui avons les moyens techniques et de production de dire ce que nos parents n'ont pas dit. Donc il y a une sorte de... Les parents ont toujours rêvé en fait de repartir au pays, de construire une maison et d'y retourner à la retraite. Et puis en fait, les enfants sont nés, ont grandi ici. Qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent d'évoluer ici, ils font des enfants ici. Mais la société leur envoie toujours, ouais, mais t'es français d'origine, tu es français immigré, tu viens de là-bas, etc. Donc il y a un vrai questionnement aussi dans ces films de rapport aux parents. Pourquoi les parents ont quitté leur pays? Pourquoi ils sont venus en France? Pourquoi ils sont jamais repartis? Qu'est-ce qu'on fait, nous, ici, en France, avec cette double culture? Est-ce qu'on a appris la langue des parents? Est-ce qu'on ne la connaît pas? Est-ce qu'on va la transmettre à nos enfants? Est-ce qu'on ne la transmet pas? Et donc, oui, dans toute cette génération, ce rapport à la double culture, on est là-dedans.
Ping-pong. C'est déjà fini et personne n'est KO.
Merci beaucoup à tous deux. Claire Diao, donc, tous ces entretiens et toute cette enquête, c'est Double Vague, le nouveau souffle du cinéma français, publié au Diable Vauvert. Et vous serez également en vadrouille
à Dakar, avec Alice Diop et Maïmouna Doucouré, le 30 juin et le 1er juillet, à l'Institut français de Dakar et à Pékin Nord, pour projeter Maman vers la tendresse et la permanence.
Jean-Marc Mormec, quant à vous, vos entretiens avec Éric Coutard, c'est donc à retrouver aux éditions Amphora dans la collection des grands témoins du sport.
Le ping-pong est un combat radiophonique qui se mène en équipe. Et quelle équipe? À la rédaction, Aïssat Wendoy, Jana Léo, Seam Boutata et Anna Baron. À la réalisation, Thomas Beau. À la prise de son ce soir, Anthony Thomasson.
Demain, ping-pong sera à la rencontre des lecteurs et des libraires et des auteurs et de plein d'autres mondes encore dans le cadre de la grande journée pour le livre.
Et dans quelques instants, un espace qu'a bien connu Jean-Marc Mormec, interviewé par Marie Desplechin, à voix nue sur France Culture.